Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Le soulagement sur l'île de Saint-Martin, épargné la nuit dernière par l'ouragan José. Mais les habitants qui sortent de leurs abris peinent à regarder l'avenir. Reportage de Thibault Lefebvre au début de ce journal. Le cyclone Irma poursuit par ailleurs sa route vers la Floride où il est attendu ses prochaines heures. La dépression climatique a ravagé Cuba la nuit dernière. L'association humanitaire CARE est en train d'évaluer les dégâts. Nous entendrons l'une de ses responsables à Paris. À Barcelone, les indépendantistes comptent s'appuyer sur la fête nationale de la Diada demain pour réaffirmer leurs ambitions face à Madrid. Et cela alors que la Cour constitutionnelle vient d'invalider le référendum d'autodétermination du 1er octobre prochain. Explication à suivre de Mathieu de Taillac. En France, la thèse d'un meurtre en famille, désormais privilégiée dans l'affaire Grégory, le journal du dimanche s'est procuré un rapport de la gendarmerie. Nous ferons le point avec Camille Marigot. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du Globe et Eric Biegala. Le pire a donc été évité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'ouragan José a épargné les deux îles la nuit dernière, mais à un seul fil, puisque le cyclone de catégorie 4 a soufflé à une centaine de kilomètres de ces deux territoires français. Territoire balayé il y a cinq jours par l'autre monstre climatique du moment, Irma, qui a ravagé plus de 90% de l'île de Saint-Martin. Saint-Martin où les habitants ont passé la nuit confinés chez eux ou dans des centres d'accueil comme celui de la cité scolaire de La Savane. Une soixantaine de personnes concernés qui sont en train de lever le camp. Il est 6h30 sur cette île où l'avenir s'esquisse douloureusement, Thibault Lefebvre.
Mustapha est arrivé il y a un mois à Saint-Martin. Il devait rentrer en classe de terminale.
On a de la chance d'être un peu épargné et de pouvoir au moins avoir une chance de nous en aller. Je compte revenir en France car j'ai de la famille là-bas. Je n'ai plus rien ici. Ma mère normalement elle habitait ici mais tout a été ravagé. Je pense qu'on n'a plus notre place ici. Et qu'il est temps pour moi de rentrer en France et à Paris.
Pendant plusieurs heures, Mustapha a été confiné dans l'établissement qui devait l'accueillir. Autour de lui, des familles et une dizaine de malades, ils ont tous perdu leur maison. Depuis le début de la semaine, la directrice de l'établissement, Marlène Borel, est chargée de l'accueil des rescapés.
On a des situations dramatiques. Et il y a des gens qui ont tout perdu. Donc c'est leur demander, est-ce qu'ils ont des familles? Comment les contacter? Quelle démarche à mettre en place avec eux sans les abandonner. Maintenant, il y a un travail, il faut le poursuivre. Donc c'est encore un autre travail, une autre logistique à mettre en place. Et là, j'espère vraiment que les autorités prendront la mesure de ce qu'il y a à faire.
Un enjeu essentiel, comment restaurer l'État après 5 jours de chaos.
Reportage signé Thibault Lefebvre. 410 gendarmes et 80 policiers sont actuellement mobilisés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 3 escadrons de gendarmerie mobile vont arriver en renfort. Face au sentiment d'abandon et d'insécurité de la population, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a défendu, je cite, les services publics hyper mobilisés depuis 4 jours. Ce n'est pas possible d'évacuer 80 000 personnes en 48 heures. Il faut le temps d'intervenir, a-t-il plaidé chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. L'ex-ministre des Outre-mer, le socialiste Victorin Lurem, estime pour sa part sur France Inter qu'on aurait pu évacuer avant les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Quant au cyclone Irma, eh bien, il poursuit sa course direction la Floride, d'ores et déjà battue par des vents violents et menacée par une mer déchaînée. La plupart des habitants ont fui vers le nord de cet état où se sont réfugiés dans des abris mis en place par les autorités. L'ouragan, qui est à l'approche de l'archipel des Keys, a tué au moins 25 personnes depuis mercredi dernier. La nuit dernière, il a aussi ravagé l'île de Cuba, plus importante catastrophe naturelle depuis 1932, selon les autorités qui ont fait évacuer plus d'un million de personnes. Émilie Martin est la responsable urgence de l'association humanitaire CARE à Paris. Elle raconte l'ampleur des dégâts.
Ce qu'on sait, c'est que il y a eu beaucoup de dégâts matériels, des vagues hautes de 7 mètres avec du coup des risques importants d'inondation, des arbres tombés, abattus, des coupures aussi d'électricité qui ont fait aussi que de notre côté, en termes de communication, ça a rendu l'accès à l'information assez compliqué. Là, ça commence petit à petit à se calmer. Donc, on va reprendre la main sur l'évaluation des besoins avec les autorités cubaines pour justement prendre en compte l'ampleur exacte des dégâts.
Parce que là, ce qui semble transparaître des infos qu'on a, c'est que c'est quand même essentiellement les inondations qui ont fait le plus mal, non ?
Oui, et qui aussi, du coup, ont fait le plus mal et vont avoir des effets sur le moyen terme assez importants. C'est-à-dire qu'il va y avoir du coup beaucoup de travail, beaucoup d'activités pour remettre un peu tout d'aplomb, travailler sur l'accès à l'eau potable en premier lieu, l'accès à de la nourriture pour ces personnes, dans un premier temps, parce que ça va être assez fondamental pour éviter tout risque sanitaire dans les premiers jours.
Des propos recueillis par Benjamin Delisle. Dans le reste de l'actualité, l'ONU lance un appel à l'aide face à l'exode depuis la Birmanie de la minorité musulmane Rohingya. Les Nations Unies estiment désormais à 300 000 le nombre de réfugiés arrivés au Bangladesh ces deux dernières semaines. 64 millions d'euros seraient nécessaires pour leur venir en aide. Par ailleurs, les rebelles Rohingyas du mouvement de la foi annoncent l'arrêt temporaire de leurs opérations militaires pour favoriser la livraison d'aide humanitaire. Décision saluée par la Croix-Rouge qui dit faire face à une crise immense. En Espagne, c'est un épisode supplémentaire des tensions entre les indépendantistes catalans et le gouvernement central. La Cour constitutionnelle vient en effet de suspendre le référendum sur l'indépendance de la région. Mais le gouvernement de Barcelone campe sur ses positions. Ce scrutin sera maintenu le 1er octobre prochain. Et cette volonté semble invincible à la veille de la Diada, la fête nationale de la Catalogne, Mathieu de Taillac.
Les indépendantistes catalans persistent et signent. Le président du gouvernement régional, Carles Puigdemont, a réitéré hier en meeting son intention d'organiser un référendum sur l'indépendance le 1er octobre prochain. Peu importe à ses yeux que la Cour constitutionnelle ait suspendu le décret de convocation du scrutin, le président catalan considère qu'il obéit au Parlement régional et que la législation internationale garantit le droit à l'autodétermination. « Nous avons toute la force de l'État contre nous », a reconnu Puigdemont, alors que la justice espagnole multiplie les initiatives pour empêcher le scrutin, fouille plusieurs imprimeries en quête des bulletins de vote et cherche à punir les responsables politiques. Mais, dit le président catalan, nous allons faire une chaîne invincible et indestructible, nous pourrons tout surmonter, nous obtiendrons la liberté de notre peuple pour laquelle ont lutté les générations précédentes. Fin de citation. Puigdemont appelle les citoyens à participer massivement à la fête de la Catalogne ce lundi. La démonstration de force doit montrer à Madrid la motivation des Catalans à voter envers et contre tout. Le gouvernement espagnol, de son côté, cherche à dissuader les mairies de céder leurs locaux pour compliquer l'ouverture des bureaux de vote. La mairie de Barcelone, par exemple, a exigé au gouvernement catalan des garanties pour ses fonctionnaires municipaux. Un premier succès pour Madrid, qui cherche à faire avorter le scrutin avant qu'il n'ait lieu, plutôt que de saisir les urnes le jour du vote.
Correspondance à Madrid, signée Mathieu de Taillac. Dans l'affaire du petit Grégory, la thèse d'un meurtre en famille est aujourd'hui privilégiée. Affaire qui a rebondi en juin dernier avec l'interpellation de plusieurs protagonistes, dont les époux Jacob et Muriel Boll. Remis en liberté, tous restent placés sous contrôle judiciaire actuellement. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Le journal du dimanche s'est procuré le dernier rapport des experts de l'analyse criminelle de la gendarmerie. Quels sont les éléments nouveaux?
D'abord, ce témoignage livré 6 ans après les faits en 1990, celui d'un voisin des époux Villemain, ou plutôt l'amant d'une voisine. Il confirme avoir vu, pas loin du domicile de l'enfant, un homme corpulent et une femme rousse en voiture ce 16 octobre 1984. Sauf qu'à l'époque, il ne dit rien pour couvrir cet adultère. Une description qui correspond à Bernard Laroche et Muriel Boll, selon le rapport. Les toutes premières révélations de cette dernière, âgée de 15 ans à l'époque, seraient donc les bonnes. Moins d'un mois après la découverte du corps de Grégory Villemain, elle explique que c'est son beau-frère qui a enlevé l'enfant et qu'elle était dans sa voiture au moment du rapt. Elle le répétera une seconde fois devant le juge Lambert avant de se rétracter. Pour les enquêteurs, Muriel Boll a donc bien subi des pressions pour se taire pendant 33 ans. Mais toujours selon ce rapport, si c'est Bernard Laroche qui a enlevé Grégory, en revanche, ce n'est pas lui qui l'a tué. Lui et Muriel Boll ne seraient que les maillons d'un plan plus global, fermé les guillemets. Plusieurs équipes entourent donc cet assassinat. Michel Villemain, l'oncle du petit Grégory, et sa femme pourraient avoir retardé la découverte du corps. Mais les soupçons concernent surtout Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de l'enfant. Ce seraient eux les fameux corbeaux. Hypothèse probablement partagée par Claire Barbier, la juge chargée de l'enquête depuis 2008. Puisque le couple sera mis en examen, vous l'avez dit, au début de l'été pour enlèvement et séquestration suivi de mort. C'est à ce moment-là que l'affaire Grégory est relancée.
Merci Camille Marigot pour vos précisions. Et puis dans l'affaire du laboratoire d'explosifs à Villejuif, on apprend à l'instant que le procureur a requis la mise en examen et la détention de 2 suspects. La 3e personne gardée en garde à vue a été libérée ce dimanche matin.